Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée. Avec moi aujourd'hui, Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Et à la technique, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Nous reprenons aujourd'hui, peut-être avez-vous écouté la précédente émission, ou pourrez-vous la podcaster, notre petit parcours historique sur le conflit israélo-palestinien. Nous nous étions proposés la dernière fois de reprendre les grandes dates de ce conflit qui dure et qui s'est rappelé brutalement à tous ceux qui l'auraient oublié le 7 octobre 2023. Et lors de la précédente émission, nous en étions restés aux accords d'Oslo et à cette image très forte de l'histoire du Proche-Orient, la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, sous le regard du président de la Maison-Blanche, le président des États-Unis de l'époque, Bill Clinton. Alors c'était une déclaration très importante qui a été vue par vraiment la communauté internationale comme une très grande avancée vers une paix possible. Pour la première fois, Israël et l'OLP se reconnaissaient mutuellement. Et c'était vraiment nouveau. Les deux signataires de ces accords affirmaient vouloir mettre en place l'autonomie palestinienne dans les territoires occupés par Israël. Et il convenait, de façon encore un peu théorique, de trouver une solution dans les 5 ans à toute une série de questions cruciales que les textes prévoyaient. Le statut des territoires sous contrôle israélien ou palestinien, les frontières, donc les territoires concernés, l'avenir des colonies juives, le sort des réfugiés et puis bien sûr le sort de Jérusalem, ville clé pour les différents monothéismes et divisée justement depuis fort longtemps selon les États et les religions. Ce cadre des accords d'Oslo devait se remplir avec ce qu'on appelait Oslo 1, l'accord du Caire, en mai 1994. Et l'application de cet accord du Caire commence normalement sur le terrain début 1995. L'armée israélienne se retire progressivement de certaines villes palestiniennes. Yasser Arafat est élu démocratiquement président à la tête d'un conseil législatif qui est acquis au Fatah, et donc l'autorité palestinienne se met en place. Une nouvelle étape est franchie en septembre 1995 avec la signature à Tabat d'un nouvel accord qu'on appelle Oslo 2, mais c'est un accord qui ne sera jamais appliqué pour une raison que tout le monde connaît, mais qu'on va rappeler ici, l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995. Un assassinat qui marque un coup d'arrêt très net à ce processus de paix qui était difficile, qui n'allait pas de soi, mais qui était quand même en cours. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin. A-t-il été assassiné par un individu isolé ? Est-ce que c'est un complot de ceux qui étaient vraiment ennemis de ce processus de paix ? Quelles sont les complicités et les responsabilités de cet assassinat ? On peut lire différents points de vue, évidemment, selon les sources que l'on consulte. L'histoire permettra sans aucun doute d'y voir plus clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la droite et l'extrême droite israélienne avaient déployé une véritable campagne contre les accords d'Oslo et contre Rabin, qui était même caricaturé sous les traits d'un SS. Dans la presse d'extrême droite israélienne, c'est dire la violence des attaques contre le projet qu'il portait. Donc cet assassinat marque un coup d'arrêt à ce processus de paix. Rabin n'a pas été un grand pacifiste toute sa vie, loin de là, mais il incarnait à ce moment-là de l'histoire ce processus. On peut rappeler quand même qu'il avait été un acteur majeur des expulsions des Palestiniens dès 1948. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui historiquement a fait la guerre pour installer l'État d'Israël. Alors son successeur, c'est aussi un nom qu'on connaît, c'est Shimon Peres. Il commet, aux yeux des historiens, ce qui est sans doute une erreur politique assez grave, en donnant son accord à l'exécution d'une des figures du Hamas, qui s'appelait Ayash. Et cette exécution entraîne une série de ripostes et d'attentats terroristes en Israël. Alors l'histoire, on a l'impression qu'elle s'accélère un petit peu à partir de ce moment-là, ou peut-être simplement parce qu'elle est plus proche de nous et qu'elle est très très documentée. Mais on entre dans toute une vague de réactions violentes, d'assassinats, d'attentats, de ripostes, un cycle un peu infernal de tensions qui semblent encore aujourd'hui mener un peu tout le monde dans une impasse. Je le disais à l'instant, des vagues d'attentats terroristes en Israël viennent répondre à l'exécution de cette figure du Hamas. Tel Aviv répond par le blocus des territoires. Le Hezbollah libanais envoie des roquettes sur l'État hébreu et l'État hébreu déclenche l'opération appelée « Raisin de la colère ». Commet des actes meurtriers sur Cana. Le résultat à ce moment-là, alors que on avait espéré avec les accords d'Oslo arriver à mettre en place un processus de paix véritablement efficace, eh bien c'est que au contraire, avec Benjamin Netanyahou lors des élections de mai 1996, c'est la droite et l'extrême droite qui remportent les élections. Ce nouveau Premier ministre, Netanyahou, bloque toute négociation sérieuse avec les Palestiniens. Et 3 ans après, il est battu par Ehud Barak et le paysage politique change encore. Ehud Barak est un Premier ministre, là nous sommes en 2000, qui ouvre à nouveau un peu la voie de l'espoir. Mais ces espoirs ne vont pas durer très très longtemps. Pendant un an, Barak reporte le déploiement de l'armée israélienne dans les territoires occupés, ce qui est donc plutôt un bon signe. Et il se tourne au printemps 2000 vers les Palestiniens après l'échec de négociations avec la Syrie. Et en face, la figure palestinienne, c'est toujours Yasser Arafat qui hésite à aller plus loin dans les négociations. Mais les États-Unis, qui jouent un rôle important, parce que si on zoome évidemment sur Israël-Palestine en regardant ce que font les forces israéliennes et palestiniennes, on risque d'oublier que tout cela se passe un peu quand même sous le regard de la communauté internationale, avec bien sûr l'influence à la fois des pays arabes et des forces européennes et états-uniennes, bien sûr. Et Ehud Barak, lui, il rêve d'imposer certaines de ses propositions aux Palestiniens parce que il sent qu'il y a une urgence et une tension très forte. Ces négociations vont donner lieu à une rencontre à Camp David le 11 juillet, qui est une rencontre qui mène à un échec, c'est-à-dire que les deux forces ne parviennent pas à trouver un accord. Alors, selon là encore les sources que l'on consulte, soit l'accord était vraiment au détriment des Palestiniens, soit Yasser Arafat a refusé la main tendue à ce moment-là. Évidemment, le sujet est tellement chaud et délicat que il est parfois difficile de trouver une source qui paraissent vraiment très objectives. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à trancher, n'étant pas historienne. Alors, parmi les informations que j'ai pu trouver, alors on peut dire que certaines propositions des Oudbarak peuvent être relevées, qui semblaient aller assez loin, mais pas assez loin du point de vue du droit international, ni au regard de conditions nécessaires à la création d'un État palestinien qui soit vraiment indépendant et viable. Par exemple, alors, il aurait promis le retrait de 90% de la Cisjordanie, mais en laissant de côté dans ses propositions toute une partie du territoire autour de Jérusalem, de la vallée du Jourdain, et puis aussi en laissant de côté certains territoires contrôlés par les colonies. Et puis il y a un problème qui est un problème crucial, qui est le problème de la discontinuité du territoire, c'est-à-dire que dans les différentes propositions, eh bien les Palestiniens se retrouvent dispersés dans des zones qui sont totalement discontinues et donc ne permettent pas d'imaginer véritablement correctement la vie des Palestiniens sur ces terres. Sur Jérusalem, il n'y avait pas d'avancée vraiment décisive. Sur le sort des réfugiés, il n'y avait quasiment rien. Donc, aux yeux des observateurs, l'échec semblait assez évident. Il faut reconnaître aussi que l'OLP, en 1988, en reconnaissant Israël, avait fait un compromis énorme, et que du point de vue palestinien, Ehud Barak semblait demander à nouveau des concessions sur une petite partie de ce territoire qui restait aux Palestiniens, et donc ces propositions n'étaient donc pas satisfaisantes. Alors, est-ce que Barak pouvait aller plus loin ? Sans doute, la délégation israélienne est allée plus loin 5 mois plus tard, lors de nouvelles négociations, en janvier 2001, les négociations de Taba. Dans les rapports de l'Union européenne et d'après les témoignages des négociateurs palestiniens et israéliens de l'époque, on peut comprendre que les deux parties ont approché un accord sur différentes questions cruciales, dont celle des réfugiés, sur la base de propositions parfois venant de la communauté internationale et notamment des États-Unis. Mais Barak avait décidé de démissionner, ce qui a provoqué des élections anticipées en février, ce qui peut apparaître un peu comme un suicide politique vu les circonstances pour lui et pour ce qu'on peut appeler la gauche israélienne, parce que au lieu d'espérer véritablement mener ces accords jusqu'à leur conclusion et se donner le temps ensuite peut-être d'emporter l'adhésion du reste de l'opinion israélienne, Ehud Barak décide d'affronter la droite israélienne, c'est-à-dire qu'il il s'engage dans un combat en politique intérieure, on pourrait dire, alors qu'il avait là un combat à mener pour rétablir la paix entre Israël et la Palestine. C'est complexe, hein, cette histoire. Et là, nous en sommes seulement au début des années 2000. Et puis, 2000-2005, eh bien, c'est la deuxième intifada. En septembre 2000, une visite controversée de l'ancien ministre israélien hostile au processus de paix, Ariel Sharon, visite à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, qui est donc pour les juifs le mont du Temple, déclenche des émeutes palestiniennes dans les territoires occupés. C'est la seconde intifada. Qui est marqué par des vagues d'attentats suicides commis par le Hamas et le djihad islamiste dans des centres-villes israéliens. Alors, en réponse, Israël multiplie aussi les incursions militaires et en 2002, l'État d'Israël décide de construire une barrière de séparation c'est ainsi qu'il la désigne, et mène des bombardements. Alors déjà à l'époque, les bombardements sont dits ciblés contre l'autorité palestinienne et les groupes terroristes. On sait bien que ces bombardements ne peuvent pas tomber que sur des représentants de l'autorité palestinienne ou les groupes terroristes. C'est bien la population civile qui est victime de ces bombardements. Le nombre d'attentats suicides diminue, mais ne cesse pas véritablement. Et on considère que dans cette seconde intifada, plus de 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens perdent la vie. En 2004, meurt Yasser Arafat, qui était vraiment la figure palestinienne aux yeux de la communauté internationale. Et il est remplacé en 2005 par Mahmoud Abbas. Les contacts politiques reprennent entre Israéliens et Palestiniens, mais celui qui est devenu le premier ministre d'Israël pendant l'intifada, Ariel Sharon, fait adopter un plan de désengagement unilatéral de Gaza. Il prévoit l'évacuation de plusieurs vingtaines de colonies de peuplement implantées sur ce territoire et quelques-unes en Cisjordanie, le retrait des forces militaires de Gaza, mais aussi un renforcement sécuritaire à la frontière israélienne, la création d'une zone tampon, le contrôle des frontières et de l'espace maritime et aérien. Gaza reste complètement dépendante à la fourniture des fournitures qui viennent d'Israël pour tout ce qui est eau, électricité, moyens de communication. C'est-à-dire que certes, il y a un retrait des forces israéliennes, mais en fait, toute la vie à Gaza sera conditionnée aux décisions de l'autorité politique israélienne. Donc il y a une véritable dépendance de fait et une dépendance vitale, évidemment, si on parle d'eau, d'électricité, on le sait.
Et de l'eau. Et de l'eau.
Et de l'eau. Mm-mm. 2007, le Hamas prend Gaza et Israël instaure un blocus. Alors, côté palestinien, il y a un conflit entre la composante principale de l'OLP, qui est le Fatah, et le Hamas. Et ce conflit dégénère après les législatives de 2006, qui ont été remportées par le Hamas. Donc, il y a là aussi, au sein de la vie politique palestinienne, des affrontements très violents, qui évidemment sont liés à une opposition aussi entre la volonté de trouver des accords politiques pour sortir de cette situation de guerre permanente avec Israël, et puis un groupe comme le Hamas qui initialement a bien comme projet la destruction de l'État d'Israël. Donc le Fatah est écarté. Et depuis, le Hamas domine et gère, dirige la bande de Gaza, et le Fatah est plutôt sur la partie cisjordanienne. Oui.
Au nord d'Israël, quoi. Enfin, il est surtout au Liban, quoi.
En réaction, Israël impose un blocus sur ce territoire et les quand même millions d'habitants qui y vivent. Plusieurs opérations guerrières vont rythmer les années 2000, dont les noms nous rappellent des souvenirs de tous ces reportages que nous voyons à la télévision et qui finissent par, j'ai envie de dire, par s'empiler, et on oublie peut-être un peu justement toute cette histoire longue. 2008, plomb durci. 2012, pilier de défense. 2014, bordure protectrice. 2021, gardien des murs. 2023, boucliers et flèches. Ce sont des noms qui désignent des réponses à des multiplications, pardon, d'actions d'Israël, des raids aériens, des assassinats parfois ciblés, des réponses à des tirs de roquettes palestiniennes, mais qui sont des des raids, des actions guerrières qui touchent toujours, toujours énormément de civils. Et qui sont toujours présentés, évidemment, comme des actions ciblées. C'est quelque chose qu'on entend énormément aujourd'hui, mais qu'en fait, on a toujours entendu, et entendu abondamment depuis les années 2000. Et nous sommes enfermés, quand je dis nous, c'est nous tous qui sommes un peu impuissants devant cette situation. Nous avons le sentiment d'être enfermés dans une spirale meurtrière, qui dure. Alors je vous propose, pour faire une toute petite pause dans cette émission, une chanson de Lenny Kravitz qui dit ce que nous voulons la paix. Vous êtes sur RCN et nous sommes en train de parler du conflit israélo-palestinien. J'évoquais à l'instant le nom de toute une série d'opérations menées par Israël qui les présente comme des réactions aux tirs de roquettes palestiniennes. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a tenté de chiffrer le nombre de victimes entre 2008 et 2023, début 2023. Alors, les chiffres qui sont avancés, c'est près de 10 000 personnes tuées en Palestine et 1 800 en Israël. C'est-à-dire des victimes qui sont localisées à plus de 80% en territoire palestinien. Ces violences, les différentes attaques ont conduit Israël, qui est très armé, qui a d'énormes moyens à déployer, non seulement des murs pour se protéger, mais aussi ce qu'ils ont appelé un dôme de fer, qui est un système antimissile pour intercepter l'essentiel des roquettes tirées depuis Gaza. Israël a aussi fixé pour objectif de démanteler tous les tunnels qui permettent la circulation, puisque justement les murs visent à bloquer la circulation des Palestiniens. Donc il y a tout un système de tunnels qui a été mis en place par les Palestiniens. Alors, vainqueur des élections législatives en 2022, c'est Benjamin Netanyahou qui est aux commandes, et il incarne quand même une droite extrêmement ferme en Israël. Il a dans son gouvernement des figures d'extrême droite, et on peut affirmer que c'est un nationaliste farouchement convaincu de la légitimité de son combat. Et que le processus de paix manque très certainement de figures porteuses d'un discours et d'une véritable volonté de faire la paix et de trouver une solution. Alors les solutions, elles ne sont pas très très nombreuses. Globalement, il y en a deux. La première, c'est la position historique celle qui est défendue historiquement par la France, c'est celle de la solution à deux États. Qui est une solution qui n'est pas du tout facile à mettre en œuvre, c'est une évidence, surtout que plus le temps passe, plus évidemment les sentiments la colère s'installe de génération en génération. Une autre solution qui est envisagée, c'est celle de la solution à un seul État, qui suppose donc de pouvoir vivre ensemble, malgré les différences religieuses, malgré aussi cette histoire commune des peuples. Elle est, pour nous qui sommes attachés à la laïcité, dépendante évidemment d'une séparation de la question religieuse, de la question politique. Or, évidemment, parler de l'État d'Israël, parler de l'histoire de la Palestine, c'est forcément aussi évoquer la question religieuse. D'ailleurs, Israël aujourd'hui a tendance à s'appuyer sur un discours religieux pour légitimer ses actions meurtrières contre Gaza en particulier, et la colonisation qu'elle poursuit. Parmi ceux qui défendent l'option de l'État unique, il y a l'écrivain Metin Harditi, qui lui est né à Ankara d'une famille juive séfarade et qui vit en Suisse depuis quelques années. Il est l'auteur de romans qui ont connu un certain succès en France, et dans le journal dans l'hebdo le 1, le numéro 467 de 18 octobre 2023, il prend la plume pour interroger justement les solutions possibles. Un bel article qui commence par « Il y a un temps pour tout, un temps pour les larmes et le deuil, un temps pour reprendre ses esprits, un temps court pour agir car il y a urgence, un temps pour la guerre et après. Que faire pour ne pas avoir à recommencer, pour vivre en paix, enfin ?» Et il dit que pour lui, la vérité, c'est la création d'un État unique et démocratique, offrant à ces populations des droits égaux. Bien sûr, dit-il, l'idée de voir deux États, l'un juif, l'autre palestinien, vivant en paix côte à côte est séduisante. Mais elle est, c'est toujours Metin Harditi qui parle, impossible. Elle est impossible à ses yeux. Souvenons-nous, dit-il, de l'année 2005, lorsqu'Israël s'est retiré de Gaza. Il s'agissait de déplacer 5000 colons d'un territoire non biblique sous l'égide d'un chef de gouvernement, Ariel Sharon, unanimement reconnu comme héros national. Ce retrait a créé en Israël un véritable traumatisme. Et il évoque les images qu'il a encore en tête des Israéliens qui devaient partir. Si l'on se réfère à ces mêmes critères, la situation aujourd'hui en Cisjordanie occupée est autrement plus problématique. 7000 colons sont installés sur une terre, la terre de Judée et de Samarie, soutenue par un gouvernement dont le chef Netanyahou est aujourd'hui démonétisé. Comment déplacer tous ces gens sans déclencher une guerre civile ? Quel homme politique israélien oserait ? Bien sûr, on peut imaginer des arrangements, des rocades de territoire, etc. Cela ne changerait rien au traumatisme. Donc là, il adopte aussi le point de vue des colonies israéliennes en disant que voilà, c'est-à-dire qu'on va devoir redéplacer toute une série de populations et ça ne peut pas se faire sans trouble. Lui dit qu'il est attristé de voir que les chancelleries occidentales n'envisagent qu'une solution à deux États et il les accuse de ne pas y croire et donc d'être coupable aussi de ne pas réfléchir à cette solution à un seul État. Je voulais là en dire simplement un mot parce que c'est vrai que c'est une solution qui n'est pas toujours envisagée. Il finit en citant le président Sadat, qui un jour a dit au Parlement israélien « On ne peut pas bâtir son bonheur sur le malheur d'autrui ». C'est une leçon sur laquelle nous pouvons, enfin c'est une pensée sur laquelle nous pouvons clore aujourd'hui notre émission Raison gardée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.